donc vous parlez d'érosion des sols cultivés et des processus donc à l'interface nature-société. Dans un premier temps, je vais commencer par un questionnement général et puis recadrer un petit peu les choses en ce qui concerne ces processus d'érosion et de ruissellement. Ensuite, je vais présenter un peu quelles sont les connaissances communes, ce qui est communément admis par l'ensemble de la communauté scientifique. Ils ont un peu un état de l'art de ce qu'on retrouve partout dans la littérature. Et puis après, j'aborderai deux points plus spécifiques, à savoir vous montrer que ce n'est peut-être pas si simple et que ce que l'on connaît dans la littérature classique, eh bien, la géographie apporte un autre discours, notamment en ce qui concerne les processus spatiaux. Et puis, dans un deuxième point, j'aborderai aussi la question du poids des échelles dans le fonctionnement de ce genre de processus, ce qui me permettra d'aborder, peut-être dans un dernier point, les conséquences de tout cela en matière d'aménagement et de gestion de ce type de phénomène. Je vais vous parler d'érosion des sols agricoles cultivés, donc ce qui restreint considérablement le champ d'investigation, puisque je m'intéresserai que corrélation entre l'agriculture et les processus de ruissellement érosif. Et j'aborderai principalement des exemples dans le nord-ouest français, nord du bassin parisien, et puis les zones bocaines telles que nous pouvons les connaître dans notre région. Autour de ces formes, j'aborderai les questions d'érosion classique dans les parcelles agricoles, qui peuvent être soit sous forme de ruissellement diffus avec des départs de terre, de circulation d'eau dans les parcelles agricoles qui peuvent aboutir à des processus d'érosion un peu plus marqués sous forme de rigoles, de ravines, donc des départs en terre un peu plus massifs sous l'effet de phénomènes concentrés. Et puis, peut-être une autre échelle, à l'exutoire de ces bassins versants agricoles, j'utiliserai beaucoup le terme de bassin versant durant l'explication, mais je pense que c'est ma notion un peu commune et que tout le monde maîtrise, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais disons, à l'exutoire de ces bassins versants agricoles, eh bien, on peut obtenir des phénomènes beaucoup plus violents, qu'on appelle communément, dans les journaux, disons plutôt, on parle de coulées de boue, de coulées boueuses. J'y reviendrai un peu plus tard en disant que ce terme-là n'est peut-être pas le plus approprié, mais qui correspondent en fait à des écoulements turbides extrêmement importants qui déferlent à l'exutoire de ces bassins versants et qui peuvent noyer les habitations qui se trouvent justement dans ces exutoires. Donc j'irai de la parcelle agricole jusqu'à ces bourgs ruraux à l'exutoire des bassins. Je vous parle de ruissellement érosif et de ses conséquences en termes de coulées de boue et d'inondations boueuses, mais il y a plein d'autres phénomènes qui sont associés et d'autres nuisances qui sont associés à ces ruissellements érosifs. J'en citerai juste quelques-unes. Il y a la dégradation de la ressource en eau souterraine. Ça, c'est quelque chose que nous connaissons bien sur le bassin parisien. Globalement, ce bassin parisien qui est affecté, entre guillemets, par un processus karstique qui font que la majorité de l'eau circule sous forme souterraine dans les roches sédimentaires. Ce réseau karstique, ce réseau de micro-rivières dans ces craies ou ces calcaires, eh bien, c'est dans ces petits boyaux, je dirais, que s'accumule cette eau qui fait que l'on a des nappes très puissantes, que ce soit du bâtonien, du bajossien dans nos régions ou la nappe de la craie sur la Seine-Maritime. Or, en principe, l'eau de surface ne communique pas avec cette eau, avec ces eaux profondes, donc on a plutôt des eaux de bonne qualité. Sauf que, il se peut que par l'intermédiaire de ce qu'on appelle régionalement des bétoires, des sortes de puits qui sont en contact direct avec la nappe souterraine, eh bien, on ait directement un approvisionnement de la nappe souterraine par les eaux de ruissellement de surface chargées en terre, ce qui contamine ces nappes. Ce qui fait que, très régulièrement, durant l'hiver, je pense à la région du Havre, on entend à la radio que X milliers d'habitants n'ont plus d'eau potable au robinet, tout simplement parce que cette eau, elle est contaminée. Autre point qui n'est pas négligeable, c'est également la dégradation de la ressource en eau de surface. Donc là, je quitte le bassin sédimentaire où il y a très peu de rivières en surface pour aller plutôt ici dans le bocage virois où on a un enrichissement en matière en suspension, notamment en période hivernale, qui correspondent pour partie des eaux qui viennent des parcelles agricoles et qui viennent souiller cette eau de surface. Alors, matières en suspension, charges en terre, mais aussi tous les contaminants autres, hein, pesticides et autres, qui sont associés à ces particules en terre. Tout ce que je vous présente là s'appuie sur des travaux divers et variés, et notamment hein, des travaux de doctorants et de docteurs que j'ai pu encadrer. Donc, j'ai fait mes études à Caen, et j'ai travaillé durant ma thèse sur les processus d'érosion, mais tels que ça se concevait au centre de géomorphologie à l'époque. Donc j'ai fait ma thèse avec Jean-Pierre Le Tridou et puis avec Jean-Claude Flageolet. J'ai eu la chance d'avoir en cours Pierre Brunet, hein, donc j'étais sensibilisé à ces types de questions. Mais disons que là, j'étais la dichotomie entre la géographie rurale et puis la géomorphologie était très très claire à l'époque. Et donc, quand on était doctorant au centre de géomorphologie, on travaillait sur les processus, hein, donc avec l'expérimentation de terrain, et toujours à l'échelle de micro-parcelles, hein, de l'ordre du mètre carré, de la dizaine de mètres carrés, au mieux. On travaillait à l'échelle de la parcelle agricole. On s'intéressait vraiment au processus physique. Alors, donc, j'ai soutenu ma thèse en 92. Et puis, à la fin de cette thèse, je m'étais rendu compte que, eh bien, il y avait un souci ou un manque. Disons qu'on avait beaucoup de connaissances à l'échelle des parcelles agricoles parce que, sur la période, je dirais, les années 80, même 85, 90 et jusqu'aux années 1995, sur ces 10 années-là, il y a énormément de travaux qui ont été faits par le centre de géomorphologie, mais aussi par l'équipe de Meudon, par des Belges, par des Canadiens, par les Italiens, par les Néerlandais, qui ont fait beaucoup de travaux sur ces processus. Parallèlement à ça, il y avait également un certain nombre de travaux à l'échelle du bassin versant. Hein, c'était la pleine époque aussi du Pirensen, hein, où les gens avaient travaillé sur... on se mettait à l'exutoire du bassin, et puis on observait, on mesurait ce qui en sortait. Mais, globalement, entre deux, hein, ce qui se passait entre cette parcelle agricole et puis l'exutoire, eh bien, on s'y intéressait peu, on ne savait pas exactement ce qui se passait, du moins pour la géomorphologie. Je pense qu'il y a dans d'autres disciplines ou d'autres courants de la géographie, il y avait belle lurette qu'on avait commencé à s'intéresser aux effets d'échelle, aux processus intermédiaires qui se passaient d'une échelle à l'autre. Mais en géomorphologie, on travaillait assez peu là-dessus. Donc, j'ai été recruté à Rouen. Et à Rouen, je suis un peu passé de Pierre Brunet à Roger Brunet. C'est-à-dire que je suis arrivé au milieu de l'école de quantitative, hein, de géographie quantitative avec Yves Guermont. Et j'ai trouvé un bon moyen, là, d'aborder justement ces échelles intermédiaires dans les espaces qui m'intéressaient. Et c'est ce qui a initié un peu les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis, en 2003, je suis revenu à l'Université de Caen, où je continue à travailler sur ce type de questions. Je vais principalement aborder ces questions-là, hein, qui sont issues directement de ce questionnement. Hein. Le problème du transfert d'échelle, le rôle des structures spatiales, de l'organisation des objets dans l'espace, et le poids des interactions spatiales entre ces objets. Pour avoir du ruissellement érosif, hein, il faut tout d'abord des conditions pour que ce ruissellement existe, c'est qu'il y ait de l'eau à la surface, qu'il y ait un excès d'eau qui se forme à la surface d'un sol. On sait très bien que la variable la plus importante dans les conditions de formation de cet excès d'eau, c'est l'occupation du sol. C'est presque la première entrée, hein, c'est l'occupation du sol. Et avec une dichotomie très très nette entre ce qui va être des terres cultivées et ce qui va être des terres en prairie permanente. Très rapidement, hein, sur les surfaces en prairie, on a une interception de la pluie, on a une meilleure infiltration, on a une protection du sol. Et donc, en général, sur ces espaces, on n'a que peu de soucis d'érosion de sol. Alors que sur les surfaces cultivées, quel est le problème principal? Eh bien, en fait, les terres de culture sont principalement caractérisées par des terres nues, hein, en fait, puisque les couverts végétaux sont là sur de très très petites périodes, quelques mois, et en général, les assolements font que on va avoir, notamment en période hivernale, énormément de sols qui sont à nu. Alors, je prends un exemple, hein, un enchaînement culture d'hiver, culture de printemps, qu'un blé qui va être qui va être moissonné en juillet. Si on refait un maïs derrière, par exemple, eh bien, on va avoir jusqu'au mois d'avril suivant, de l'année suivante, un sol qui est à nu. Alors, pour résumer la chose, on peut dire que sur ces espaces agricoles, le ruissellement érosif, hein, c'est, il peut se résumer à une chose, c'est la compétition qui va exister entre, d'une part, la pluviométrie des mois hivernaux et la croissance des végétaux. Donc, c'est cette compétition dans le temps entre la pluie cumulée et puis la croissance de la végétation. On a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur la question, et notamment cette question du recul des surfaces toujours en herbe. On remarque un recul généralisé, quelles que soient les régions, et a fortiori sur les régions qui étaient extrêmement herbagères dans les années 70. Donc on a un recul qui est général, et je dirais presque une tendance à l'uniformisation presque des paysages agricoles sur l'ensemble des territoires français. Globalement, on estime à peu près à 30% le recul de ces terres en herbe, enfin ces surfaces toujours en herbe. Bon, parallèlement à ça, on a eu un recul de la SAU, hein, c'est-à-dire que globalement, les terres agricoles ont également diminué. Quand on regarde les statistiques, on se rend compte que les terres cultivées se sont maintenues. Donc, il ne faut pas penser qu'on a uniquement construit sur les terres en herbe, hein, évidemment. C'est simplement que, parallèlement à cette croissance des zones habitées, et notamment tout le phénomène de périurbanisation que l'on a connu, eh bien, parallèlement, on a réinjecté des cultures, hein, dans les espaces agricoles, et au détriment des surfaces toujours en herbe. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, puisque quand on prend une terre même à nu, hein, si on prend un semis de blé, par exemple, ou un semis de maïs, ben on se rend compte que dans les contextes climatiques, je dirais, de la France septentrionale, hein, où on a des intensités de pluie qui sont très très faibles, hein, Caen, par exemple, c'est 80% de pluie qui sont... 80% des pluies ont des intensités inférieures à 4 mm/h, donc ce qui est quand même 4 litres au mètre carré par heure, ce qui correspond à des intensités très faibles. Et ça, n'importe quel sol est capable de l'absorber. Donc en principe, même sur des sols nus, on ne devrait pas avoir de ruissellement. Alors, vient se surajouter à cette mise à nu des sols un phénomène qui est bien connu des agronomes, hein, qui est le phénomène de formation de la battance. Globalement, si on prend un sol émietté, meuble, hein, ce que les agronomes appellent faciès F0, hein, donc qui pourrait correspondre à un semis, petit à petit, sous l'effet de la pluie, eh bien, ce sol va se lisser. Se lisser tout simplement parce que les gouttes de pluie arrachent les particules de terre des plus gros agrégats ou des plus gros morceaux et les redistribuent sous forme d'une petite pellicule. Alors les agriculteurs, l'expression qu'ils utilisent, les cailloux poussent, hein, les cailloux poussent tout simplement parce qu'effectivement, au fur et à mesure que ces petites particules se répartissent, les cailloux sont nettoyés des particules terreuses qui les recouvrent et ils apparaissent clairement à la surface des parcelles. Et donc cette petite pellicule, elle est totalement imperméable ou presque totalement imperméable. Donc on passe d'un faciès meuble qui est capable d'absorber sur une pluie instantanée presque, on remarque, jusqu'à 50 mm/h, hein, donc 50 litres au mètre carré par heure, à des capacités d'infiltration, hein, qui sont de l'ordre du millimètre heure. Ce qui veut dire que là, à chaque pluie, on a du ruissellement. Ces processus de formation de croûte de battance, qui portent différents noms dans la littérature, mais disons que le principe est toujours le même, tous les sols n'y sont pas sensibles. Et malheureusement, les sols qui y sont les plus sensibles, ce sont les sols limoneux, c'est-à-dire ce qui correspond à une taille de particules, mais qui est la plus communément répandue, et notamment dans nos régions, hein, qui sont couvertes de limon éolien quaternaire, qui donnent des sols presque exclusivement limoneux. Donc nous avons des sols qui sont extrêmement sensibles à ces processus de battance. On a la compétition, en fait, entre trois paramètres. D'une part, la pluie hivernale. D'autre part, la dégradation du sol de surface par la croissance de la battance. Et enfin, la pousse du couvert végétal. Donc, certaines années, la croûte de battance n'a pas le temps de s'installer et le couvert végétal a déjà poussé. Et puis, des années, ben, typiquement comme cette année, on avait plutôt l'automne assez sec où les travaux agricoles ont été faits tôt, hein, donc les semis ont été mis en place rapidement. On aurait dû avoir un couvert végétal qui aurait dû apparaître très tôt, beaucoup plus tôt qu'ici, beaucoup plus tôt que le mois de février. Mais sauf que les deux ou trois séquences de neige ont tout retardé. Hein, et là, on a toute la région de Normandie, mais la basse Normandie aussi, des processus d'érosion spectaculaires, parce que cette période hein, de sol dégradé par la battance et non couvert par la végétation a été extrêmement longue. Situation qui était au mois de fin février en Seine-Maritime, hein, des sols complètement dégradés. Hein, si on prend une photo un peu plus proche, hein, on voit cette croûte de battance qui couvre complètement la surface et qui rend ce sol presque aussi imperméable qu'un parking, hein, en fait. Donc sur la sensibilité des sols à la battance en France, sur les sensibilités fortes à très fortes, hein, toute la basse Normandie, tout le nord du bassin parisien, et une bonne partie de la Bretagne, hein, correspondent aux catégories les plus sensibles. Alors évidemment, il n'y a pas que la dégradation par la pluie. L'activité agricole a aussi son incidence sur les phénomènes de ruissellement. Et quand on n'a pas obligatoirement, je dirais, imperméabilisation par la croûte de battance, on peut avoir tout simplement l'imperméabilisation par compactage mécanique du sol. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans les bocages, moins hein, dans les plaines plateaux de grandes cultures, notamment sur les cultures de maïs. Sur ces types de surfaces, hein, on estime qu'entre 70 et 80% de la surface a été affectée par le passage d'un engin, à un moment ou à un autre. Ce qui veut dire que, vu les engins qu'il y a aujourd'hui, un compactage qui est extrêmement fort. Donc en fait, là, ce n'est plus une imperméabilisation de surface, c'est simplement l'épaisseur de sol qui est écrasée, hein, qui fait qu'il n'y a plus d'infiltration. Alors ça, c'est des choses qu'on trouve beaucoup sur le maïs. Et puis, sur le plateau de Caen, on va plutôt retrouver ça sur les chantiers de récolte de pommes de terre, hein, comme en Seine-Maritime, hein, ou de betteraves. Si on résume la chose, ou synthétise l'ensemble, hein, au cours d'un calendrier cultural avec un suivi d'assolement, eh bien, va s'enchaîner, au cours du temps, en fonction des pluies, des périodes de sensibilité au ruissellement, en fonction des caractéristiques du moment. Et les choses ne se reproduisent pas forcément d'une année sur l'autre, hein, puisque les assolements peuvent être assez variés, mais on va trouver des périodes de forte sensibilité au moment où on n'aura pas de couvert végétal et où le sol soit compacté ou imperméabilisé par la croûte de battance. Ensuite, une fois qu'on a cet excès d'eau, eh bien, pour avoir vraiment de l'érosion, il faut que cette eau circule. Bon, pour qu'elle circule, il faut de la pente. Et aussi des concentrations successives. Tout d'abord, la première forme, c'est le ruissellement diffus. Le ruissellement qui n'est pas concentré, qui se promène partout sur la parcelle. Processus de ruissellement qui n'est pas très efficace, il n'est pas très compétent, hein, puisque le ruissellement n'est pas concentré, ne se déplace pas vite. Donc il n'est capable que de nettoyer des particules les plus fines la surface du sol. Donc on va trouver en bas de parcelle des petits épandages. Alors ça a une incidence quand même importante hein, en bas de parcelle, notamment sur les blés d'hiver, des zones où le blé ne pousse pas, tout simplement parce qu'il a été étouffé par ces sédiments qui se sont déposés. Et puis globalement, c'est une perte de fertilité quand même importante sur les parcelles, puisque ce sont les particules les plus fines qui vont être déplacées. Et puis une fois que le ruissellement peut s'organiser à la faveur de la pente, eh bien on va commencer à voir apparaître des phénomènes d'érosion plus linéaires comme ça. Donc plus efficace et qui commence à se marquer hein, dans le paysage. Donc là, on est au stade de petites rigoles, ce qu'on appelle aussi de griffures hein, dans les parcelles agricoles. Et puis, lorsque la concentration de l'écoulement, c'est-à-dire la concentration topographique, c'est-à-dire un endroit où, une sorte de petite alvèque, hein, ou tête de bassin, où l'eau va s'accumuler venant des versants environnants, donc on va avoir des volumes d'eau plus importants, une compétence qui va être plus grande et on va commencer à voir apparaître des formes hein, d'une autre taille, sorte de rigole d'érosion hein, qui vont lacérer un peu les parcelles. Très longtemps, on a dit gêne pour les agriculteurs parce que ça gêne le passage des engins. Bon, maintenant, les engins qu'ils ont, ils peuvent passer des rigoles d'un mètre de profondeur sans souci. Hein, donc, c'est pas trop le problème. Par contre, ce sont des zones où il ne pousse rien. Et puis là encore, c'est la perte de quelque chose qu'on estime mal aujourd'hui, hein, qui n'est pas tellement pris en compte, je pense même pas dans le Grenelle de l'environnement, c'est le patrimoine sol. Hein, c'est-à-dire que le sol ne se régénère que très très doucement. Dans les chiffres qu'on trouve dans la littérature, c'est 1 mm d'épaisseur en 10 ans. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez perdre dans ces zones-là, hein, comme 100, 150 ans, 200 ans de formation de sol en quelques heures. Donc il y a cette perte de patrimoine sol qui n'est pas négligeable, et puis aussi cette perte de production qui va être associée à ces espaces. Et puis, par moment, quand les concentrations deviennent très importantes, quand il y a des grands volumes d'enjeux, vous pouvez obtenir des mégaformes, donc de ravines, qui peuvent avoir plusieurs dizaines de mètres carrés de section. En termes de transport, en termes d'érosion, c'est des phénomènes qui sont loin d'être négligeables. Même si nous sommes dans une région où le relief n'est pas particulièrement énergique, où nous avons notre petit climat normand qui ne pose pas a priori de problème, on a ces phénomènes qui, aujourd'hui, sont quand même importants à l'échelle européenne. Une fois que l'on a ces formations de ruissellement et d'écoulement dans les bassins versants, évidemment, l'aptitude à circuler pour l'eau de circuler dans un paysage agricole n'est pas partout la même. Évidemment, les espaces de champs ouverts, d'open field, comme on peut le rencontrer en Seine-Maritime, sont plus propices à cette circulation d'eau, évidemment. On a toujours dit aussi, dans les connaissances communes, que plus on allait avoir un espace qui était barré par des obstacles, qui avait présentait une mosaïque paysagère complexe, plus ces espaces allaient protéger, ou être protégés du ruissellement. Et évidemment, la question qui était régulièrement posée, c'était le rôle de ces obstacles qu'il pouvait y avoir de parcelle à parcelle. Et notamment, des linéaires boisés, des haies sur talus, et leur rôle sur la diffusion de l'écoulement. Là, il y a eu énormément de travaux qui ont été faits, notamment lorsqu'il y a eu les grandes campagnes de remembrement, sur les conséquences de l'arrachage de haies sur la diffusion de l'écoulement et sur les processus d'érosion. Autre question qui a souvent été mise en avant, c'est la taille des parcelles. Agrandissement des parcelles, disparition des obstacles à l'écoulement. Là, on a les conditions propices pour avoir la circulation d'eau. Ça, c'est vraiment l'état de connaissance commune entre toutes les disciplines. Globalement, moi, je ferai un petit point à ce niveau-là. Avant tout, dans ces processus de ruissellement et d'érosion, on a une vision qui est avant tout agronomique. C'est-à-dire que c'est le sol qui explique la majorité des choses. Ensuite, on a une vision qui est plutôt linéaire des phénomènes. Pour passer de la parcelle agricole jusqu'à l'exutoire et aux formes d'érosion majeure à l'exutoire, globalement, quand on a des petites pluies, on a des petites érosions à l'échelle des parcelles. Puis quand on a des grosses pluies, on a des gros phénomènes à l'exutoire. Et dans les faits, on va voir par la suite que c'est peut-être pas si simple que ça. Dans cette vision agronomique, on laisse de côté toujours les interactions entre les composantes du milieu, c'est-à-dire qu'un paysage agricole n'est pas composé que de parcelles agricoles. Il y a d'autres choses. Il y a de la voirie, il y a de l'habitat, il y a des réseaux. Et tout ça, ça a un rôle qui est quand même important. C'est là-dessus que j'axerai maintenant mon propos, en parlant dans un premier temps, disant que la réalité est peut-être plus complexe que ça, et en abordant la question, justement, des interactions spatiales. Effectivement, dans un paysage agricole, on peut avoir des connexions hydrauliques qui sont relativement simples. On a une parcelle directement en contact avec un cours d'eau. L'eau de la parcelle va directement dans le cours d'eau. Un paysage de champs ouverts, l'eau communique de parcelle à parcelle et peut s'acheminer tranquillement jusqu'à l'exutoire du bassin. Donc là, pas réellement de souci. Par contre, quand on regarde les choses un peu plus finement, dans des espaces plus cloisonnés, on se rend compte que même dans un paysage qui apparaît comme très cloisonné, avec des réseaux de haies, un bocage, l'eau circule et l'érosion fonctionne. Alors, au gré de quoi ? Au gré, entre autres, de zones où, justement, ces réseaux de haies sont moins imperméables. Parfois, les agriculteurs les percent eux-mêmes pour évacuer l'eau. Et puis, au gré aussi des entrées de champs, pas bien positionnées ou positionnées dans l'axe des écoulements, permettent la circulation de l'eau. Ensuite, cette eau, elle ne circule plus dans les espaces agricoles, mais elle va circuler par le réseau routier qui les prend en charge. Donc on passe d'un système de circulation surfacique à un système de circulation linéaire. Et cette eau peut être acheminée ici, tranquillement, vers la rivière. Donc on peut avoir des parcelles qui sont situées à 1 km de toute rivière. L'eau n'avait potentiellement aucune chance de rejoindre où le ruissellement érosif n'avait aucune chance de rejoindre la rivière et dégrader l'eau douce. Par contre, eh bien là, via ce réseau, hein, on va avoir des connexions qui permettent à cette eau de rejoindre la rivière et donc hein, de faire jouer à plein le système érosif. Bassin qui fait 19 km², donc dans la région de, dans le bassin versant de la Seule. 19 km², un bassin, vous voyez, qui présente beaucoup de prairies, 42% de prairies, assez peu de surface cultivée. Un bassin qui est présente un bocage encore assez dense, avec des haies qui ont un rôle hydrologique qui est assez, assez efficace, hein, puisque c'est à peu près 6 km par kilomètre carré de bassin versant. Et quand on fait quand on étudie la circulation des eaux, bien on se rend compte que sur ce bassin de 19 km², 20% du bassin sont directement connectés au cours d'eau, hein, directement parce qu'on a des parcelles qui sont en bord de rivière directement. 40% ne sont pas du tout connectés, donc sorte de caissons hydrauliques protégés par leur rideau de haie. Et par contre, 40% du bassin sont indirectement connectés via les réseaux, ce qui fait un total de 60%. Donc, quand je disais que la réalité n'était pas si simple que ça, c'est pas parce qu'on a un bocage hein, qu'on n'a pas un système érosif qui peut s'installer de la parcelle jusqu'au cours d'eau. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe maintenant régulièrement hein, et ce sera un peu le sens de mon propos. Hein. Ce n'est pas parce que dans un espace, on va avoir une forte densité de haies que ça nous protège obligatoirement des processus de ruissellement et d'érosion. Que c'est bien les interactions spatiales hein, qui ont un rôle important et c'est ça qu'il faut observer. Et là, je suis pile poil, dans, je dirais, dans mon questionnement post-thèse. Hein, c'est que ça me permet de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les échelles intermédiaires entre la parcelle hein, et l'exutoire. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point que je vais aborder maintenant, c'est toujours pour mettre en perspective cette réalité plus complexe qu'il n'y paraissait au départ, c'est m'appuyer sur le poids des échelles. Et je reviens sur mes coulées de boue. Coulées de boue qui sont des phénomènes extrêmement dangereux, hein, extrêmement dévastateurs hein, pour les zones habitées à l'exutoire des bassins. On avait fait une première étude sur la Seine maritime en faisant l'inventaire des processus de coulée de boue entre 1960 et 2000. Alors, ce qu'on remarque déjà, hein, c'est une croissance importante à partir du début des années 90. Donc, inventaire fait à partir d'articles de journaux, de délibérations de conseil municipal, des archives de la préfecture, des pompiers, enfin bref, hein, tout un tas de documents qui nous permettaient, en les croisant, de statuer sur l'importance de ces coulées de boue et sur leurs effets sur le bâti et les communes rurales. Et ce qui est apparu très très rapidement, c'est qu'en fait, sur les plus de 90 événements qu'on enregistrait sur la période, bien la plupart étaient des phénomènes qu'on observait plutôt en période printanière, donc plutôt suite à des orages. Et contrairement à ce qu'on pensait, les phénomènes de ce type liés aux processus hivernaux sont très très rares, puisqu'ils ne représentent que 21 événements, alors que les autres en représentent 68. Mes processus de ruissellement que je vous présentais tout à l'heure, qui sont avant tout des processus hivernaux, hein, au moment où il y a très très peu de sol nu, et très très peu de couverture végétale, bien en fait, ce qu'on croyait relier un peu linéairement avec ces phénomènes de ruissellement, à savoir les coulées de boue, bah dans les faits, c'est pas ça. Hein, c'est qu'on est sur un autre type de phénomène, et là, sur des phénomènes qui sont plutôt des phénomènes orageux. Qu'on a bien connu, qui est celle du 1er juin 2003 sur la basse vallée de la Touque, hein, donc Deauville-Trouville, c'est des pluies qui peuvent être énormes. 124 mm en 24 heures à Deauville, et notamment hein, 87 mm de pluie, 87 litres au mètre carré, entre 16h à 17h. Alors c'est un orage un peu exceptionnel, on a ici des images radar qui nous montrent qu'en fait la cellule orageuse, elle s'installe à 6h30 du matin, et elle ne commence à se déplacer qu'à 16h30 le soir, hein, quasiment 12 heures sur place, sans bouger, et avec des abats d'eau qui sont extrêmement importants. Alors, je vous disais que ces phénomènes étaient particulièrement dommageables. Hein, ici, vous avez, à titre indicatif, hein, le coût des dégâts sur la Seine-Maritime entre 83 et 98. Hein, donc, c'est des sommes hein, qui dépassent la dizaine de millions d'euros régulièrement. Et surtout, ce sont des phénomènes hein, qui causent des décès. Et ça, c'est un phénomène important parce qu'aujourd'hui, les crues classiques, débordements de cours d'eau, ne tuent plus. Hein, ne tuent plus tout simplement parce qu'on a des réseaux d'alerte qui sont assez efficaces, des réseaux d'annonces de crues hein, qui permettent de protéger les populations. Donc aujourd'hui, les crues qui sont encore mortelles, ce sont les crues éclairs type Cévenols qu'on rencontre dans le sud de la France, et puis également ces crues turbides ou ces coulées de boue, qu'on peut aussi appeler des crues rapides, hein, que l'on trouve dans la partie nord de la France, notamment sur tout le nord du bassin parisien et un peu sur le Calvados. Donc c'est un risque important régionalement. Alors on a commencé à s'intéresser à ces coulées de boue un peu plus spécifiquement et on s'est rendu compte qu'elles ne se produisaient pas n'importe où. Elles ne se produisaient pas n'importe où. Systématiquement, on les trouve dans les parties basses des vallées, souvent sur des petits vallons latéraux. Petits vallons latéraux, c'est typique sur Trouville-Deauville. Trouville-Deauville, c'est le bassin des Ouïes et autres qui se trouve dans la partie en rive droite de la Touque. Exemple de Barentin en Seine-Maritime, c'est des petits vallons qui dominent Barentin dans la basse vallée de l'Austreberthe. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces petits bassins? Eh bien, c'est justement qu'ils sont, en étant placés comme cela dans les basses vallées, c'est systématiquement des petits bassins qui sont extrêmement pentus. C'est-à-dire, en gros, qui descendent très très rapidement du plateau qui va se situer quasiment à 120-150 mètres hein, pour la Seine-Maritime, jusqu'au presque au niveau zéro, en quelques kilomètres. Hein. Donc c'est, on pourrait dire, presque des toboggans à eau hein, qui sont positionnés de part et d'autre des basses vallées. Alors ça avait été remarqué sur la Seine-Maritime et ensuite ce travail a été poursuivi notamment par Johnny Douvinet qui a travaillé sur l'ensemble du nord du bassin parisien et qui a cartographié tous les endroits où il y a eu des coulées de boue avérées. Donc on voit bien différents pôles qui ressortent, hein, faut garder les en tête, ils nous serviront tout à l'heure. C'est la Seine-Maritime, d'une manière générale, c'est le Soissonnais, et puis l'Artois, enfin, globalement, trois pôles, et puis des petits points un petit peu plus disséminés. Et il a cherché à vérifier si, effectivement, on retrouvait ces conditions topographiques un peu particulières, et il l'a remarqué, hein, en montrant qu'on avait principalement des petits bassins qui étaient en pente très forte, qui se trouvent soit dans les basses vallées des grands cours d'eau, soit dans toutes les zones de but témoin, d'avant-but ou de cuesta. Donc une typologie, je dirais, il a dégagé un type 1-1 qui était ces bassins, ces petits bassins en pente très forte, et puis 1.2 sur ces rebords de cuesta, en position de but. Et puis quelques bassins plus grands, hein, qu'il a appelés type 2, qui sont des bassins un peu particuliers. Alors évidemment, on s'est intéressé tout de suite à la pluie. Et par exemple, sur la période printanière, en essayant de voir les endroits où... quand on analysait les longues séquences pluvieuses, pluviométriques, quels sont les endroits où on avait le plus de phénomènes, je dirais, de pluie intense ou de pluie importante. Pour mai, juin, juillet, août, vous avez le nombre de jours sur une normale pluviométrique, hein, sur 30 ans, le nombre de jours par an où on va avoir des pluies qui dépassent 30 mm dans la journée. Donc 30 mm sur ces 4 mois-là, forte chance que ce soit des orages. La Seine-Maritime se dégage, notamment au mois de juin. Toujours la Seine-Maritime au mois de juin, mais également la zone qu'on a mise en évidence tout à l'heure. Et puis, période plus tardive, au mois d'août, hein, on voit apparaître la zone du Nord-Pas-de-Calais. Donc, la cause principale de la sensibilité de l'espace à ces coulées de boue, c'est d'une part le positionnement topographique, d'autre part, hein, la géographie régionale de la répartition des pluies extrêmes, hein, au moins sur les derniers 30 ans. Alors évidemment, on a été voir quelle était l'occupation du sol de ces bassins. Et dans les faits, ben, on se rend compte que ce n'est pas l'occupation du sol qui intervient dans ces phénomènes de coulées de boue. C'est bien la topographie, les pluies extrêmes, hein, et l'occupation du sol, je dirais l'agriculture, ne devient qu'une variable de second plan, hein, par rapport... au phénomène. Donc il n'y a pas de linéarité dans les processus. Il y a, je dirais, des phénomènes hivernaux qui vont plutôt affecter les zones agricoles, les parcelles agricoles, vraiment les zones de culture. et puis des phénomènes printaniers estivaux orageux qui vont affecter plutôt des bassins en forte pente. Donc on est plus sur des phénomènes qui sont rapprochés de ce que l'on peut rencontrer en domaine méditerranéen en fait. Alors je reviens sur l'évolution de ces phénomènes. On a cumulé les différents départements par rapport à la période 83-2005. On a un pic qui se situe entre le début des années 90 et jusqu'à l'année 2001. Ça y est, enfin, le changement climatique, on le voit clairement. Alors, j'avais fait des analyses très poussées sur les structures pluviométriques qui ne montraient pas d'évolution, ou du moins des évolutions. La variabilité régionale était plus importante que la variabilité des chroniques elles-mêmes. Donc, l'hypothèse climatique n'était pas avérée. Alors ensuite, ce que j'avais essayé de voir, c'est que je me suis dit, peut-être que c'est la vulnérabilité qui a augmenté. Plus d'espaces bâtis, donc plus d'espaces qui potentiellement peuvent recevoir une coulée de boue. Alors, dans les faits, il y a sûrement de ça. Soit ce sont toujours les mêmes communes qui sont touchées, mais on voit bien qu'il y a de plus en plus de nouvelles communes touchées. Donc, cette hypothèse de la vulnérabilité, elle est avérée. Mais, à la fin de la thèse de Johnny Douvinet, quand il a fait 2003, 2004, 2005, on s'est rendu compte que c'était un petit cycle à un moment donné et que pour l'instant, il y avait une réduction de ce type de processus depuis le début des années 2000. Donc là, je revenais sur la terre de mes prédécesseurs en réintroduisant une sorte de déterminisme physique, la pluie, la pente. Je voudrais, dans ce chapitre-là, justement aborder cette question du déterminisme physique. En géographie, en géomorphologie, c'était quasiment devenu un tabou, source de querelles importantes de notre discipline. Quand je dis déterminisme physique, je vais prendre un exemple. Alors, la Seine-Maritime présente une organisation du paysage qui est très très simple. On a ces plateaux, d'accord, avec largement utilisés par l'agriculture, ces clomazures que vous connaissez, donc ces anciennes fermes entourées d'arbres. Et puis, dans les zones de vallon, dès que les pentes s'accélèrent, donc dès qu'on a un petit vallon qui va rejoindre des talvecs plus importants, aussitôt les versants sont boisés. Des zones de culture, parfois une auréole d'herbe au contact des bois, et après surface boisée. Donc l'organisation à peu près toujours la même. Je me suis intéressé à une zone un peu particulière, qui est affectée par un accident tectonique important, avec un bloc qui est effondré dans la partie nord, et un bloc qui est soulevé dans la partie sud. C'est le bassin versant de la Durdan, et la faille en question passe au milieu. Concrètement, ce que ça nous donne quoi sur le terrain? Sur le partie nord, le bloc qui a été effondré, il y a très très peu d'encaissement des vallons et des talvegs, parce que tout simplement, ce bloc était déjà effondré. Par contre, dans la partie soulevée, dans la partie sud, on a un encaissement du paléo-réseau hydrographique très marqué. Donc beaucoup plus de bois et beaucoup plus de versants boisés. Et ça se traduit clairement dans l'occupation du sol, c'est-à-dire qu'on va trouver beaucoup plus de cultures sur ce compartiment-là que sur celui-là. Au nord de la faille, on est régulièrement à plus de 80% de surface cultivée, alors qu'on est en dessous dans la partie sud. Dans la partie nord, on peut avoir jusqu'à 35% des surfaces cultivées qui sont dans des îlots supérieurs à 200 hectares, alors que sur le compartiment sud, on va avoir des îlots qui sont beaucoup plus petits. Bien souvent, ils ne dépassent pas la centaine d'hectares. En tout cas, ils ne dépassent jamais 200 hectares. Donc là, il y a bien un déterminisme physique sur l'occupation du sol. Par contre, maintenant, si on regarde l'érosion, les grandes ravines, donc qui font plus de 600 mètres de longueur, on va les trouver dans cette partie nord. Et les plus petites ravines qui ne dépassent pas les 300 mètres de longueur, on va les trouver dans la partie sud. Ce qui se comprend. Puisque les plus grands îlots cultivés se trouvent au nord, le réseau ravinaire, l'érosion, plus s'y développe plus facilement. On a bien un déterminisme physique là qui influence l'occupation du sol, qui influence lui-même le réseau d'érosion. Sauf que, on pourrait presque dire qu'on a un déterminisme inversé, puisque le vrai déterminisme physique, c'est plus on a de pente, plus on a d'érosion. Or là, l'érosion, elle est plutôt développée dans la zone où il n'y a pas de pente, tout simplement parce qu'on a plus de cultures. Donc on a un déterminisme mais qui est filtré par l'activité agricole, qui fait que ça inverse la chose. Donc je militerai un peu pour ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tabou à parler de déterminisme physique, mais qu'il peut être complètement filtré, inversé par les pratiques agricoles. Et j'irai même plus loin en introduisant le travail qui a été fait par, par Maxime Marie, par exemple, hein, sur la structuration des exploitations agricoles, lui, il a montré que, globalement, l'organisation de l'occupation du sol était très dépendante de la distance. Hein. On avait des noyaux de prairies très, très proches des exploitations, et au contraire, les cultures plus loin. Ce qui se comprend, quand on a un troupeau, hein, d'avoir des ressources en herbe autour des sièges d'exploitation. Donc ça conduit aussi à une ségrégation spatiale de l'occupation du sol, où on va avoir des grands îlots cultivés par éloignement du siège d'exploitation. Ces grands îlots cultivés, ils sont à la fois dus au potentiel de terres cultivables labourables, plus ce phénomène de structuration par les exploitations agricoles. C'est pour ça que j'ai travaillé sur les systèmes complexes, ou la théorie systèmes complexes après, hein, sur ces niveaux d'échelle où on peut avoir à certains niveaux plutôt des contraintes physiques qui apparaissent. À l'échelle régionale, c'est évident, notamment pour les coulées de boue ou même pour l'organisation des grands espaces, enfin, des grands patchs d'occupation du sol. Et puis après, on a à voir des interactions avec les pratiques agricoles qui sont générées soit en termes d'organisation provoquée par les agriculteurs, soit en termes d'assolement, soit en termes de pratiques agricoles qui viennent se surajouter ou se surimposer à ces différents paramètres. Quelles conséquences de tout cela en matière d'aménagement ? Les pratiques classiques d'aménagement, je dirais que l'outil classique d'aménagement rural pour ces genres de phénomènes, c'est le bassin de rétention. C'est-à-dire qu'on crée une zone de stockage du ruissellement, souvent à l'interface entre la zone agricole et les zones habitées. On stocke l'eau temporairement et puis on la relargue doucement après. Bon. Toutefois, on s'est rendu compte très vite, dans les dernières années, que ça ne traitait que l'interface espace agricole, espace habité. Donc il était peut-être intéressant d'intervenir dans le bassin pour éviter le ruissellement agricole. Donc il y a eu toutes ces pratiques d'hydraulique douce où on a essayé d'aller dans les parcelles agricoles et de développer des techniques qui permettaient de réduire le ruissellement. La technique la plus classique, ce sont les bandes enherbées, coteaux-viticoles. Alors ça, je pense que pour un viticulteur, avoir de l'herbe comme ça dans sa vigne, je pense qu'avant de lui faire admettre ça, il a fallu travailler encore une ou deux générations. C'était un peu une vigne de feignant, ça, quand même. Hein. Pour commencer à développer ce type d'aménagement des parcelles agricoles, il y a beaucoup de concertation, beaucoup de travail avec les agriculteurs hein, pour qu'ils acceptent, qu'ils s'approprient hein, ces pratiques. Alors, bandes enherbées, les diguettes, hein, par exemple ici, petites haies qui sont à partir de saules. Hein, donc, on fait des petites diguettes avec des branches de saules qui sont entremêlées. Et puis, on favorise la pousse de petites haies. Et donc, ça permet, vous voyez, le stockage hein, des sédiments. Par contre, autre technique, tout ce qu'on appelle les TCS, hein, les techniques culturelles simplifiées, c'est-à-dire essayer de moins agresser le sol par les pratiques agricoles, notamment les techniques sans labour hein, ou semi-directes. On ressème directement, par exemple, sur une chaume de blé pour conserver le paillage à la surface qui retient le sol. Donc ça, c'est des techniques qui sont assez efficaces. Autres techniques qui sont liées notamment à toutes les mesures agro-environnementales, notamment dans le cadre de la directive nitrate qui impose dans son quatrième programme d'ici 2012 ce qu'on appelle les cipans qui seront obligatoires dans les périodes automnales. C'est quoi les cipans? Ce sont des cultures intermédiaires pièges à nitrate, donc qui doivent pomper les reliquats d'azote en période notamment automnale. Alors, au départ c'était fait que pour les nitrates, mais évidemment on a vu tout l'intérêt de ces types de cultures pour le ruissellement également, puisque ça permet de protéger le sol hein, durant la période hivernale. Donc je dirais que toutes ces techniques, elles sont intéressantes. Hein. Il existe des quantités de sortes de cipans en fonction de leur qualité en termes d'absorption, de couverture du sol, d'exploration racinaire, de tolérance au froid, bref, hein, entre la moutarde, la navette, le colza, la facélie et autres, ou le seigle. Tout ça, ce sont des techniques, des plantes qui vont être implantées dans les périodes interculturales. Toutes ces techniques permettent considérablement d'améliorer les choses, toujours dans une logique phénomène hivernaux, longue pluie d'hiver. Hein, on est toujours dans la logique agronomique de l'approche. Et puis d'autre part, on est toujours dans la logique d'accompagnement des pratiques agricoles actuelles. C'est-à-dire qu'en gros, l'aménagement s'adapte au système productif sans le remettre en cause. Et ça, c'est une question importante. C'est-à-dire que où doit s'arrêter l'aménagement? Est-ce qu'il doit aussi dire un jour à un agriculteur, bah là, nous, on veut une parcelle en herbe à la place de ça? Ou est-ce qu'on doit simplement être dans, on s'intercale dans les pratiques sans les gêner, hein, pour essayer d'améliorer la situation? Et en l'occurrence, c'est ce que l'on fait principalement jusque-là. Alors tout ça, ça nous offre des possibilités pour les processus d'érosion classiques tels que je vous ai présentés au départ. Par contre, pour nos coulées de boue, ça ne sert à rien, puisque l'occupation du sol n'a que très peu de rôle. Il ne faut pas penser arrêter un écoulement turbide, une coulée de boue, avec ce type d'ouvrage. Hein. Je pense à les chiffres, les données que l'on maîtrise, hein, ou que l'on connaît assez bien, par exemple, sur à l'ouest de Rouen, un bassin comme Saint-Martin-de-Beaucherville, qui fait 15 km², qui est un tout petit bassin versant agricole. On a estimé le volume d'eau à peu près à 400 000 m3, avec des débits de pointe qui dépassaient les 15 m3/s. Donc c'est des 15 000 litres seconde, hein, c'est des écoulements gigantesques. Donc ça, ce serait rempli en deux fois rien. Hein. Ces types de pratiques n'ont aucune efficacité. Donc dans l'aménagement, eh bien, il faut bien tenir compte de cela, et c'est ce qu'on commence à faire aujourd'hui, c'est importer des techniques, soit d'autres pays, soit du domaine méditerranéen, par exemple les gabions, c'est-à-dire des casiers de grillage dans lesquels on met du matériel, si possible du matériel que l'on a sous la main, en l'occurrence ici du silex, hein, tiré de l'argile à silex. L'intérêt, ce n'est pas de stocker l'eau, c'est de réduire la puissance de la lame d'eau. Hein, en gros, cette eau, elle va se heurter à ces casiers, et va dissiper son énergie dans les pierres qui remplissent le casier. Donc avec plusieurs types de petits barrages comme ça, bah, ça permet de réduire, hein, la puissance de la vague et peut-être amoindrir les dégâts qui sont derrière. Et puis autrement, bah, il faut passer par de la prévention, ou de la prévision plutôt, plus que de l'aménagement. Alors ça avait été l'objet du travail de Johnny Louvinet. Hein. Bah, il a repris tous les bassins qui présentaient des caractéristiques identiques aux bassins qui avaient été touchés, même fait des cartes de densité de bassins potentiellement touchés. En termes de prévention, c'est reconnaître la possibilité qu'il y ait une coulée de boue sur ces bassins, et puis ensuite, c'est de la surveillance météo. On ne peut pas développer de l'aménagement associé à ces bassins-là, au même titre que les aménagements qu'on peut développer pour plutôt des processus hivernaux. Je vous remercie.